Bonjour et bienvenue dans Paroles de sorcière. Dans cet épisode, nous n'allons pas raconter des histoires, mais partager plutôt des expériences. Nous allons donc parler aujourd'hui d'être étudiante en 2024 avec Delia et Jeanne. Je vais vous laisser vous présenter et présenter votre engagement ou plutôt ce que vous voyez par rapport au féminisme, comment vous vous sentez par rapport à la question du féminisme.
Ok. Moi, du coup, c'est Delia. J'ai 22 ans et je suis étudiante en communication, en deuxième année de BUT communication. En étant une femme, moi, je considère que je suis obligée, entre guillemets, d'être féministe. Parce que voilà, ça va avec la casquette, enfin. Je pense que maintenant t'es obligée d'être féministe parce que juste on est dans une société où tu peux pas te t'affirmer en tant que femme sans je sais pas où je vais hein. Je sais pas du tout où je vais. J'aurais
C'est
dû
pas grave.
juste me présenter en plus. Genre, en fait, c'est horrible. Je te jure, c'est horrible.
Mais elle est trop tricky ta question.
Mais
Mais
de ouf, genre, moi je croyais juste on allait se présenter et la go elle dit
Non, ce qui est important dans cette question, c'est de savoir comment tu te sens, quel est ton engagement, est-ce que c'est justement quelque chose où juste tu te sens sensible à la question et comme tu dis, en tant que femme étudiante en 2024 ou en tant que femme en 2024, tu ressens le besoin d'être féministe juste parce que, vas-y, envie d'avoir des droits et pas de te retourner au 19e siècle à demander à mon époux pour pouvoir acheter des œufs. Mais voilà, c'est que bah, du coup, je te connais et t'es pas non plus dans une asso féministe, t'es pas là à aller faire la moindre manif. Et c'est aussi ça qui est important, juste de savoir comment toi, la question du féminisme te touche sans faire une dissertation dessus.
Ouais, ok. Bah oui, en soi, moi je suis plutôt, enfin, je suis une féministe. Alors, je vais pas dire passive non plus parce que je suis pas en mode, voilà. Mais en gros, oui, je fais partie de ces gens en sociologie, ils les appellent les.
Je vais pas te donner
Je
le terme,
sais
je le
plus,
connais
mais
pas.
j'ai plus le nom. Mais bref, c'est les passagers clandestins, je crois. En gros, je profite des gens qui luttent vraiment, de la lutte que les autres font pour profiter de mes droits. Mais en même temps, c'est-à-dire que je suis pas publiquement féministe dans le sens où je vais pas, par exemple, à des manifestations. Enfin, j'ai dû faire genre deux manifs féministes dans ma vie. Je vais pas, pareil, ouais, voilà, je suis pas dans une asso ou quoi que ce soit. C'est pas un engagement dans l'action, mais disons que, en tout cas, dans mes principes, je suis alignée avec les valeurs féministes parce que voilà, le droit des femmes existe et c'est important de se battre pour et j'ai un discours qui, en tout cas, va dans ce sens-là sans pour autant voilà être une actrice essentielle, enfin, même si en mon sens, rien que d'être une femme est assez pour être féministe, je suis pas une actrice majeure de la lutte pour le féminisme, enfin, dans le féminisme.
Jeanne, à toi.
Bonjour, donc oui, moi je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans et je suis en troisième année de licence en études en danse. À l'université de Pontbois. Je suis donc une artiste, danseuse, je fais partie de plusieurs associations et en tant qu'étudiante et femme étudiante, je me considère aussi comme féministe dans mes actions, dans mes paroles envers les personnes avec qui je parle. Mais comme Delia, je suis pas... Je ne fais pas, je n'ai encore jamais fait de manifestation ou des choses comme ça. Voilà.
Très bien. Et du coup, je suis terminer le tour de table en me présentant. Donc, je suis Camille, je suis vice-présidente des DEC Inspiring Women, donc je suis dans une asso féministe. En ayant un engagement qui tient de l'asso, mais c'est pareil, je ne suis pas très manif parce que l'occasion se porte moyennement et en même temps, est-ce que je ne me trouve pas une excuse à chaque fois pour ne pas y aller, mais les choses font comme ça. Et au-delà de ça, dans mon entourage, je suis féministe, je suis catégorisée par mes proches comme étant féministe, féministe même auprès de personnes qui connaissent un peu de loin. Et ça depuis longtemps, parce que je pense que ça a commencé au lycée, voire même avant, j'ai une grande sœur qui est féministe, qui m'a appris à grandir avec. Et c'est un peu comme ça que s'est construit ma pensée. Au-delà de ça, je suis étudiante en commerce et en école d'ingé. Donc, ça fait trois parcours très différents. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, Delia, dans ta définition de ton engagement, de cet aspect de être femme, c'est être féministe. Bon, là, on a quand même Trump qui vient d'être élu.
Ouais.
Parce qu'on n'est pas très en avance sur l'enregistrement de ce podcast. et j'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais oui, si les femmes uniquement avaient voté, Kamala Harris serait passée donc au tour des présidentielles américaines. Mais il reste que je crois que c'est à peu près 40% des femmes qui ont voté pour...
Ouais, je crois que c'est ça. Ça doit être un 55-45.
Voilà.
Voilà.
Bon, on reviendra pas sur les propos de Trump. Vous trouverez sur Internet très facilement de quoi dire qu'il n'est pas le plus féministe que la Terre ait porté. Et du coup, comment toi t'imagines, est-ce que t'es confrontée parfois à ces femmes complètement anti-féministes qui a retour
Ouais, clairement. J'ai vraiment un exemple plutôt récent. Pendant mon stage, en avril-mai, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un discours que j'ai déjà rencontré qui était que « Ah, mais moi, je suis mieux avec des mecs, les filles, elles sont trop nanani, trop nanana, font trop de manières, etc. » Un discours qui est très féministe selon moi. Et puis même, elle avait d'autres paroles qui étaient, pour moi, assez aberrantes venant d'une femme, sachant que c'était aussi quelqu'un qui n'avait pas eu une vie facile de sa position de femme. Et en plus, elle était racisée. Donc bref, elle a vécu des galères qui... Je ne comprends pas comment elle peut avoir un discours comme ça qui était que... les femmes peuvent être des putes entre elles, des trucs comme ça. J'étais en mode, ah oui, ok, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Enfin, genre, c'est parce que c'est des femmes qu'elles crachent sur les autres ou qu'elles font trop de manières ou quelque chose comme ça. Et juste pas parce qu'elles sont juste débiles. Et je t'en parle, ah oui, ok.
Oui, bah, si ça peut te... En exemple, moi, j'ai eu une dame pendant les élections présidentielles qui m'a fait du porte-à-porte pour Éric Zemmour en tant que femme racisée. Et là, j'ai remis en question quand même beaucoup de choses sur comment on peut en arriver là. Et autant agir à sa propre rencontre. Donc, même vibe, hein.
Bah, même dans les gens qui sont en politique, c'est Najat Vallaud-Belkacem. La meuf est... une meuf d'origine maghrébine qui est clairement à droite. Enfin, alors, peut-être pas à l'extrême droite, mais bon. C'est quand même compliqué de... socialement de d'être ok avec des valeurs qui sont celles de la droite quand t'es une femme et que t'es racisée en plus. Et ouais, c'est compliqué.
Ok. Jeanne montre qu'elle n'a pas grand-chose à ajouter. Et oui, que de... j'arrive pas à quantifier, moi, cette montée du féminisme. De... Parce que je suis quand même dans des cercles très, très éduqués sur la question. Et donc, forcément, j'ai des exemples comme cette dame qui tractait pour Zemmour, mais ça reste du... vraiment de l'anecdotique. Du coup, j'arrive pas, moi, à voir cette montée du féminisme si c'est juste un... une balance face au mouvement MeToo et donc il y a eu une résurgence d'autres discours, ou si vous, dans ces dernières années, vous avez vu aussi dans votre entourage des gens plus prendre la parole sur le fait, et surtout des femmes prendre la parole contre le féminisme.
Oui, moi, pour ajouter, c'était juste aussi que au niveau du féminisme, on peut être féministe aussi parce qu'on a le choix de l'être par rapport à notre condition. Parce qu'on est trois femmes blanches de la classe moyenne, et donc on a toute une éducation, on va dire, avec... on a toute une éducation assez accessible ou avec assez ouverte d'esprit sur ce qu'on pouvait faire dans notre vie, sur nos études, sur notre façon de penser. Et donc, il y a aussi cette chose de... On a eu l'occasion, pour moi, pour ma part, c'est quand je suis arrivée au lycée où mon environnement s'est ouvert sur d'autres... où j'ai pu choisir, par exemple, mes activités, mes spécialités. Où là, où je me suis dit, waouh, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses dont j'aimerais parler et beaucoup de choses dont j'aimerais me défendre. Et c'est là où mon opinion s'est créée. Et où je me suis dit, ok, en fait, être féministe, ça veut dire ça. Et moi, j'ai envie de l'être.
Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça rejoint un peu le côté de... On est dans des cercles très éclairés.
C'est ça.
Enfin, sur la question.
Oui.
Et qu'en effet, c'est une chance. Que bah, moi, je ne serais pas là à mon niveau de... même si je ne suis pas du tout la savante folle sur la question, et la personne la plus au courant de tout, sans ma sœur, sans le fait que mes parents m'ont toujours dit, ils n'ont jamais fait de distinction sur les matières, notamment dans notre éducation entre mon frère et moi, par exemple. Et forcément, ça joue beaucoup. On a eu des petites graines et mes parents ne sont pas les plus fervents féministes, et en même temps ils nous ont éduqués en ayant cette idée d'égalité entre les enfants et que chacun choisit sa voie et...
voilà. Et puis pour rebondir sur ce que Jeanne a dit, de toute façon le féminisme c'est politique, et on sait très bien que l'éducation politique, tout le monde n'y a pas accès. Nous, en effet, on a eu la chance d'avoir des parents qui, même si, pareil, ne sont pas forcément les plus engagés, mais en tout cas, sont assez impliqués et ont une culture assez large sur la politique, et puis nous ont laissé la chance d'être curieuses et de toucher à ce sujet-là. En effet, je sais que je viens d'un lycée et d'un collège où... c'était un milieu populaire et où tu avais beaucoup de personnes racisées et qui, pour le coup, étaient dans une... Enfin, vraiment d'un milieu populaire, qui n'ont pas forcément eu accès à tout ça. En tout cas, au moins au collège-lycée, parce que voilà, c'était dans un environnement qui soit culturel ou juste financier, fait que... elles n'ont pas forcément pu avoir accès à ce milieu-là et à ces sujets-là.
Très bien. Je crois qu'on va pouvoir commencer après cette longue introduction sur le sujet. Donc, on va parler du fait surtout d'être étudiante, puisqu'on est toutes les trois étudiantes. Et on va commencer avec un peu quelques chiffres sur les femmes dans l'enseignement supérieur. Et la représentation des femmes dans les diverses filières. Parce que pour vous donner une idée, les femmes représentent 84% des étudiants et étudiantes en formation paramédicale et sociale. 51% en école de commerce et 28% en école d'ingénieur. On tombe à genre 2% sur les trucs très spécialisés type électricité ou ce genre de domaine. Vous êtes quand même dans des filières très féminines. Et ma question, c'est pas de dire pourquoi vous n'êtes pas électricienne, mais plutôt est-ce que vous savez s'il y a des éléments déclencheurs qui vous ont mené à là, si à un moment ça vous a traversé l'esprit de il y a un biais de trop vouloir être un peu parfois tiraillé entre les clichés, de je correspond trop aux clichés et en même temps fondamentalement c'est ce qui me plaît. Donc, je vais pas aller à l'encontre de ce qui me plaît. Accepter que je rentre dans certains clichés. Est-ce que ça vous a touché ou est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit cette filière, elle me va pas parce que, vas-y, trop masculine, elle me fait peur, ou c'était plus, vas-y, je suis ma voix.
Pour ma part, au collège, j'étais assez forte en français et en maths. Et donc au lycée, s'est posé la question de est-ce que je vais plutôt vers des filières scientifiques ou littéraires? Et j'étais vraiment tiraillée par les deux. Et j'ai choisi littéraire juste parce que j'avais l'impression que scientifique me demandait plus de boulot, vraiment d'apprentissage par cœur, etc. Pas forcément par rapport au milieu qui était plus masculin ou autre.
En fait, c'est juste que Jeanne, c'est une feignasse, c'est tout.
Non. Et un peu. Un peu. Et au niveau des études en danse, alors oui, c'est un milieu où on est beaucoup plus de filles que de garçons. En tout cas, de personnes qui se sentent comme femmes et de personnes qui se sentent comme garçons. On a deux, trois mecs dans une classe de 35. Cette année en L3, donc on est une petite promotion, mais donc là on voit vraiment que c'est une filière où il y a beaucoup plus de femmes qui sont présentes. Dans nos enseignants aussi, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc je sais pas si c'est parce que c'est la danse et que c'est considéré comme féminin, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de garçons qui ne s'autorisent pas souvent à aller dans des filières qui sont considérées comme féminines. En sachant que justement j'ai choisi cette licence-là parce que elle sortait des chemins battus, en tout cas pour quelqu'un qui veut faire de la danse, parce que c'est de la théorie de la danse. Donc c'est encore autre chose que de la pratique, où pareil dans les cours, la répartition homme-femme est hyper différente.
Merci beaucoup. Delia.
C'est vrai que je me suis jamais posé la question de si ça avait une influence ou pas. Je pense pas, honnêtement. Après il y a aussi un truc je pense d'éducation, parce que moi pour le coup j'ai un père prof et ma mère qui travaille dans le social, donc c'est des gens qui pareil m'ont jamais dirigé vers une filière parce que ça correspondait plus aux filles ou ça c'était pas, enfin il y avait pas trop de garçons, etc. Et pareil comme Jeanne, collège lycée j'étais bonne dans les matières littéraires et en mathématiques. Les sciences, c'était moins ça. Sciences SVT et physique-chimie, c'était moins ça. Mais en tout cas, maths, même maintenant, je kiffe les maths. Alors, pas trop non plus, mais je trouve que c'est assez marrant. Mais c'est vrai que je me suis toujours plus épanouie, en tout cas dans les matières littéraire, enfin surtout les langues. Après, est-ce que ça a un rapport avec le fait que je sois une femme? Je sais pas. Et en tout cas, c'est sûr que le fait que je me retrouve qu'avec des garçons ou en majorité avec des garçons, ça a jamais été un truc qui m'a inquiétée. Moi, je sais que j'ai un parcours assez alambiqué. Enfin, genre, j'ai fait trois filières différentes. Et la première filière dans laquelle j'étais, c'était en géographie aménagement. Alors, quels sont les clichés? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que, à votre avis, enfin, je vous pose la question, à votre avis, en géographie et aménagement, y a-t-il plus de mecs ou de meufs?
Je n'en ai aucune idée. Moi, je.
Ben. Je pense que géographie, moi c'est le et aménagement qui me fait tilter. Si on est plus sur quelque chose des territoires, des trucs vraiment très très loin, très théoriques, bah en vrai je dirais un guess comme ça, mais peut-être qu'il y a un peu plus d'hommes que de femmes.
Moi, je te rejoins, je dirais un 60-40.
Oui, mais juste parce que pour moi, en tout cas, quand j'ai fait des classes au lycée, on était beaucoup à faire AGGSP pour la politique, par exemple, où là, ça intéressait filles et garçons. Mais on a toujours été un peu moins filles et plus de garçons qui faisaient de l'histoire, les choses comme ça.
Et bah alors, je crois que en effet, on était plus, enfin, il y avait plus de mecs que de meufs. Et en fait, bon, c'est bête, je suis pas allée jusqu'en L2. Mais en deuxième année de licence, ils pouvaient choisir entre aménagement ou géographie. Et je crois que la grande partie des filles sont allées en aménagement et les garçons plutôt en géographie. Mais ça restait quand même assez, bah, assez égalitaire, parce que justement, enfin, pour moi, c'était quand même, enfin, c'est hyper neutre, parce que en fait, tout le monde s'en fout de la géographie. Enfin, en ce moment, non, pas tant. Il y a quand même, je trouve qu'il y a un intérêt qui augmente sur l'urbanisme. Enfin, je rencontre de plus en plus de gens qui bossent en urbanisme ou qui font des études en urbanisme. Enfin. Peu importe à quel niveau, mais en tout cas, ça émerge un peu, puisque c'est aussi dans les sujets d'actualité de
De
l'écologie,
reconstruire
voilà, c'est ça.
par un monde durable et ça passe par l'habitat.
Exactement. Mais en tout cas, ouais, quand je suis allée là, je savais pas dans quoi je m'en j'allais, mais je suis allée. Puis après, bah, pour le coup, mes deux autres filières, c'était LEA, clairement féminin, parce que c'est les langues. Et la communication, bah clairement, je crois qu'ils sont. On est une quarantaine, ils doivent être 5 garçons. Donc ouais, on est à peu près sur les mêmes quotas que pour Jeanne. Pour autant, pourquoi la communication? Enfin, pourquoi la communication est un milieu féminin? Vraiment, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi on est plus de filles. Enfin.
Parce que les métiers dits de support sont quand même souvent vus comme féminins. Et c'est triste comme ça. Et en fait, c'est aussi de l'image qu'on a
Oui.
est très féminine, hein. Parce que tu vois, quand tu me dis communication, moi je pense aux chargés de communication dans les associations ou dans les entreprises. Je n'ai jamais vu de nom masculin en tant que chargé de communication.
Et bah, tu sais quoi? En faisant des recherches de stage, j'ai croisé pas mal de mecs. Hyper surprenant, mais en fait, il y a un truc aussi, ça je l'ai vu en cours, c'est que avant, la communication était plutôt masculine et ça s'est féminisé, même avant les réseaux sociaux. Mais en fait, il y a aussi le truc que à la base, la communication, c'était pour le métier de communicant, il a été créé parce que les hommes et femmes politiques avaient besoin de personnes qui écrivent les discours. Et je pense que être à un niveau de, enfin, bah, la politique, voilà, c'est clairement plus masculin que féminin. Et donc je pense que c'est pour ça que à la base c'était quand même plutôt masculin parce que voilà, ça touchait à la politique et ça s'est féminisé parce que c'était plutôt du côté social, on va dire, dans les entreprises ou autres structures.
Eh ben, merci pour cette interlude
Merci.
historique. Moi, j'ai eu un parcours où j'ai peut-être plus choisi en fonction du nombre de meufs ou de non. Parce que je me souviens en seconde, quand j'ai dû. Enfin,
choisir ma filière de bac. Bon, ES, je sais pas, en vrai, les matières ont l'air cool, mais voilà, il faut être honnête quand même, un père qui encourage fortement à partir dans la voie S. Et en revanche, entre la SVT et la SI, donc les sciences de l'ingénieur, je me souviens avoir choisi en mode la SVT, ça me branche pas de fou. Je sais pas trop quoi faire, j'hésite entre les deux. Quitte à choisir, autant prendre la SI parce qu'il n'y a pas de meuf. Si dans les classes en dessous, il y a des filles qui voient qu'il y a genre 5 meufs à la place de 4, bah peut-être ça les fera elles choisir cette filière plus que les autres.
Ah ouais, donc il y avait vraiment un côté bah, engagé dans la démarche. Enfin, même si j'imagine que c'est pas non plus ta motivation principale, mais il y a quand même cette réflexion.
Bah, j'avais quand même cette réflexion en me disant, dans tous les cas, en vrai, la seule voie que je me ferme en choisissant pas SVT, c'était médecine. Et j'étais certaine de ne pas vouloir faire médecine.
Quel dommage.
Voilà, je me suis retrouvée en SI. Je ne sais pas si c'était le meilleur choix de ma vie, mais je me suis retrouvée en SI. Et après, j'ai vu, du coup, j'ai fait un peu comme Delia, des classes très masculines où c'était absolument pas un souci. Genre, j'ai pas eu de souci d'intégration, j'ai pas eu de souci de comportement ou autre. Enfin, franchement, très bien. En revanche, j'ai pu voir que les filles réagissaient différemment aux gars dans les mêmes filières. Enfin, c'était surtout marquant en prépa. J'ai fait un an de MPSI et. Clairement, je me souviens d'une pote qui était dans le top de la classe et qui n'osait pas demander, enfin qui se pensait pas assez sûre d'elle pour demander la classe étoilée en deuxième année. Là où des gars étaient prêts à racler les fonds de tiroir pour avoir cette classe étoilée et même si ils auraient été sans doute plus à leur place, à leur niveau en classe non étoile. Et donc cette différenciation de confiance, moi, elle m'a marquée. Elle m'a aussi marquée dans le fait que dans cette classe, on a commencé, on était 15 filles. Je crois qu'il y en a 7 qui ont continué de la deuxième année. Et je suis partie de celles qui se sont cassées vers de nouveaux horizons.
C'est vrai.
Hein. Donc il y avait beaucoup moins de confiance en soi, beaucoup plus d'abandon chez les filles. Est-ce qu'il faut marquer ça sur un côté de les filles sont moins bonnes en sciences? Absolument pas, parce qu'elles étaient parfaitement, enfin, elles suivaient quoi. Mais il y a une question de elles étaient moins à leur place, peut-être parce que leurs aspirations n'étaient pas les mêmes. Mais voilà, il y a quand même empiriquement, en tout cas, j'ai pu tester que la classe scientifique n'était pas. La survie féminine n'était pas assurée, disons. Donc voilà, c'était ça un peu sur mes choix de filière. Et que. Voilà. Je sais pas grand-chose d'autre à ajouter.
Simplement.
Et aujourd'hui, vous ne vous sentez pas du tout bloqué là-dedans, enfin, même si de toute façon, vous êtes toutes les deux dans des filières qui vous plaisent. Et je sais pas où je vais après cette phrase. Mais voilà, on va conclure le sujet ici.
Super.
Super.
Cut.
Allez.
Je sais pas si vous voulez rajouter un truc en plus.
Ah, c'est fini là?
Non, non.
Ok.
J'ai fini un des sujets, mais si vous voulez rajouter un truc sur les études, c'est un truc qui.
Ok.
Pour ma part, après, au niveau des études, moi, plus que les catégories, ça c'est les filières mecs ou ça c'est les filières plutôt supposées pour être féminines, même si ça je l'avais. Pour moi, quand j'étais au collège et au lycée, les maths c'était garçons et les littéraires c'était pour les filles. Je le vois bien aussi dans tout ce qui est les prépas, comme tu disais, j'ai une copine qui est en prépa, elle a fait prépa nutrition, où là il y avait encore plus de mecs que de filles, parce que c'était quelque chose aussi où il y avait beaucoup de calculs à faire, etc. C'était assez scientifique. Et là, elle s'est dirigée dans une prépa littéraire où il y a plus de filles. Donc les clichés, en fait, sont encore là, même si voilà, mais moi c'était plutôt une question aussi de entre surtout faire des côtés plutôt des études entre être artiste et être
Être plus critique et dans le
théorique,
support
plus
théorique.
théorique en fait. C'était surtout ça la question pour mes études, plus que dans des filières, est-ce que je vais plutôt dans quelque chose de féminin ou non. C'était vraiment, ouais, voilà, pour moi c'était entre être artiste, aller dans des études artistiques ou aller dans des études plus scientifiques, plus dans la norme, on va dire.
Non, mais de toute façon, là n'était pas le propos dans le truc de. Est-ce que vous avez choisi cette filière exclusivement parce qu'elle est dite féminine et même on a pu voir enfin par vos parcours de toute façon vous enfin, surtout Delia t'as un peu changé et vu plein d'horizons. C'est plutôt voir est-ce que de manière sous-jacente après avoir fait ces choix il y a maintenant quand même quelques années vous vous rendez compte que certains biens ont été utilisés et de toute façon c'est enfin il y a aussi un côté de bah, c'est pas grave, on construit notre parcours sur comment on a été éduqué, comment on a évolué. Et c'est sûr qu'on a pris certains biais d'avant, qu'on en a déconstruit d'autres, qu'on va en déconstruire plein d'autres ensuite. Et que cette catégorisation en mode filière dite féminine ou filière dite masculine, bah, voilà, elle n'a pas de sens. Et j'ose espérer qu'elle n'a pas de sens dans votre construction de parcours. Mais peut-être plus si vous aviez une anecdote ou vraiment le cliché du prof de physique qui dit va faire la secrétaire et laisse un tel faire toutes les manies parce que tu comprends, tu pourrais abîmer ton vernis à ongles. Bon, là, je suis très, très dans le cliché, mais il y a quand même certaines fois où moi, j'en ai entendu.
Ça existe, hein, ça existe clairement. J'ai jamais été témoin de ça, mais enfin, par contre, ouais, j'ai des potes qui ont été en prépa 1G. Par contre, oui, c'était vraiment, voilà, comme il y avait peut-être deux meufs, c'était vraiment bah, les gonzesses, quoi. C'était juste, il y a une généralisation de, ah, je m'adresse à un public mec. On s'en fout de ce que je dis, quel ton j'utilise. Clairement, la misogynie est acceptée. Et puis même, ça s'entend dans les discours de mecs qui ont fait 1G. Alors, encore une fois, je ne généralise pas. Mais enfin, clairement, il y en a qui ont ce discours-là parce que je pense qu'ils ont été entourés, enfin, ils ont été dans un milieu où c'était bah, un peu banalisé, mais je crois que c'est aussi pas que, ça s'applique pas que à l'ingénierie, ça s'applique globalement aux grandes écoles, parce que commerce, c'est clairement pas beaucoup mieux. Enfin, les mecs avec les doudounes sans moches, ils sont. Enfin, c'est pareil, quoi. Et là, c'est moi qui fais un cliché sur les mecs en école de commerce.
Ouais, non, pour revenir sur les études, comme tu parlais de la prépa aussi, je viens de me souvenir que j'ai un ami qui a fait une prépa en PTSI et il me racontait aussi, donc ça c'est vraiment véridique de l'année dernière et l'année d'avant. Alors je sais plus les catégorisations, mais donc t'as les PTSI qui sont plus physiques et t'as aussi la filière pour tout ce qui est SVT.
BCPST.
BCPST.
BC.
BCPST.
Voilà, ça. Et ben, mon ami me racontait, parce que. Bon, voilà. Mon ami me racontait que, bah, en vrai, pour se trouver une meuf, bon, bah, fallait aller voir. Fallait...
BCPST.
Voilà, fallait voir les BTPST.
Les BTP. Non, rien à voir. Rien à voir.
Fallait aller voir les sciences et vie de la Terre, parce qu'en fait, c'était majoritairement des meufs et pas des mecs, alors qu'en PTSI, t'avais trois filles qui se couraient après dans la prépa, quoi.
Ah mais c'est totalement ça. Et il y a le côté, les BCPST et les écoles d'agro-véto font grimper les stats des prépas scientifiques.
C'est ça. Et donc, dans les prépas scientifiques, même si déjà les filles sont moins que les mecs, bah, en plus, elles sont dans une filière spécifique pour amener un métier presque limite différent de ceux que les hommes font dans leurs études.
Oui, totalement. Et ça, c'est ça, malheureusement, dans toutes les prépas, le cliché de bah, il y a 60% de meufs au moins en BCPST, là où il y en a genre 25% en prépa scientifique autre, et à la vie dure et super dure d'année en année. Moi, je voulais aussi rejoindre des remarques d'Elia sur la remarque des profs. J'ai quand même un prof qui s'est excusé, enfin, c'est même pas une excuse, c'était. Il a voulu dire qu'il n'était pas sexiste avec une remarque merveilleuse. Moi, je suis pas sexiste, hein. Mais trouvez-moi une meuf qui s'est changé une roue et je lui donne la voiture et les clés de la voiture avec.
Oh mon Dieu. C'était quand ça? C'était dans quel...
C'était dans Terminal.
En terminale.
Et
Ah
donc,
oui.
on avait écrit une lettre qui se plaignait de manière générale des classes de sciences de l'ingénieur. Et on avait fait une ligne. Déjà, on avait dû se battre pour que cette ligne reste dans notre lettre. Sur le fait qu'il y avait certaines remarques qui n'étaient pas acceptables de la part des profs.
Mais franchement, mais là, moi, mon côté féministe aurait fait que j'aurais changé une roue, je lui aurais envoyé la vidéo, j'aurais fait, mais tiens, donne-moi la voiture, en fait.
J'étais pas là à ce cours. C'est le seul cours de SI que j'ai loupé. Le jour où il a fait un PowerPoint pour répondre ligne par ligne à cette ligne, enfin à cette lettre, alors que je l'avais moi-même écrite. Donc
Mince.
voilà.
Ouais.
Et ouais, non, et après c'était le confinement. Mais franchement, quand on me l'a raconté, je n'arrivais pas à y croire. Et au moins, point positif, j'ai plus eu à me battre après pour que les gens comprennent que ce prof était sexiste.
Mais alors quand même, moi je sais pas changer une roue par exemple parce que je n'ai pas de voiture, je n'ai pas passé le code et j'avoue que pour l'instant je ne serais pas capable de changer une roue. Mais les filles savent changer des roues parce que j'en ai l'exemple. Je me souviens très bien être rentrée en voiture avec mes deux parents et mon frère juste sur la route et il y avait deux filles avec une voiture et elles étaient en train d'essayer de changer une roue qui avait crevé. Et c'était le soir, il était 23h30. Mon père qui conduisait s'arrête, ouvre la fenêtre et fait bonjour, est-ce que vous voulez de l'aide et tout, parce que en tant que tu comprends, il allait pas quand même laisser les deux jeunes filles
L'homme
sans
sauveur.
défense, exactement. L'homme sauveur, en sachant que on était en famille, donc ma mère avait fait exprès aussi de prendre la parole pour leur montrer que c'était pas un homme seul qui s'arrêtait en voiture pour leur dire, hey, est-ce que vous voulez de l'aide pour changer votre roue? Et les filles nous avaient vraiment rembarré en mode, non, non, vous inquiétez pas, on gère. Du coup, mon père a fait, ok. Il était parti, s'était retourné vers moi et avait dit Jeanne, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut savoir se débrouiller toute seule. Et comme ça, tu n'auras pas besoin de l'aide des autres. Donc oui, les femmes savent changer les roues de voiture. Waouh!
Ah, c'est fou. Eh ben, visiblement, pour ce prof, c'était une information qui n'était pas possible. Et ouais, non. Après, la sidération était telle dans la classe de juste personne ne savait comment réagir parce que tu t'attends à tout sauf à ça comme réponse à je suis pas sexiste.
Mais ouais, moi je vais prendre un exemple qui est du coup complètement à l'inverse. C'est que bah du coup on l'a dit, je suis dans une filière qui est très féminine. Et les profs, justement, mecs ou meufs, sont clairement féministes. Enfin, il y a alors ok, c'est peut-être bah, comme moi un peu passif. Mais ils ont clairement, en tout cas, un discours qui est 100% féministe. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'offenser les 90% de la classe ou si c'est réellement leurs attentes? Mais bon, connaissant mes profs, à mon avis, c'est quand même bien ancré en eux. Et du coup, qui ont eu des remarques, bah, vannant les rares mecs de la classe qu'il y a en disant oui bah de toute façon on sait très bien les mecs qu'il y a ici ils sont tous au fond de la classe en train de jouer à des jeux vidéo. Le cliché est vrai, enfin c'est vraiment ce qui se passe. Le truc c'est qu'il n'y a pas que les mecs qui font ça, mais parmi la flopée qui fait ça les mecs sont dedans. Et ouais, le nombre de remarques qu'il y a eu sur le fait que bah les mecs, juste fermez vos gueules parce qu'en fait, vous êtes entourés de meufs et puis vous avez bien intérêt à être féministe vu le milieu dans lequel vous allez travailler. Et en vrai, ça, c'est pour le coup des messages qui donnent espoir. Alors, peut-être pas le « les mecs, fermez vos gueules, vous êtes en minorité », mais en tout cas, plutôt le côté « joignez-vous à elle ». Vous êtes pas, enfin, c'est pas une opposition. Vous êtes voués à cohabiter, coexister, co-travailler également. Donc, soyez plus ouverts que la majorité des mecs, quoi.
Oui.
Et ça fait mais en vrai, ça fait trop du bien d'être dans un environnement comme ça. Et pour le coup, c'est sûr que dans d'autres filières qui sont soit plus égalitaires ou plus masculines, je pense pas que ce soit un discours qui soit très courant. Donc en vrai, ça, c'est vraiment, ça fait du bien. Et puis, j'ai notamment un prof qui, je pense, est complètement féministe, quoi. Un prof mec.
Ouais, moi je vois dans mes filières, donc en commerce, c'est plus. C'est assez équivalent en termes de. Je crois que les chiffres de je sais plus où.
Ça doit être du ministère. C'était du 51, je crois.
C'est 51% des personnes en école de commerce s'identifiant en tant que femme. Donc ils ne prennent pas en considération la question. On a déjà atteint l'égalité. On regarde pas, il n'y a pas beaucoup de discours pour voir est-ce que les gars sont quand même nettement plus présents dans les filières finance qu'en marketing ou des éléments comme ça. C'est pas, la question ne se pose pas. Et après, en ingé, il y a ce discours de l'égalité, c'est super bien parce que promouvoir la mixité sous toutes ses formes, que ce soit incluant beaucoup plus de personnes racisées ou de femmes ou atteintes de handicap, peu importe le handicap, ça nourrit les équipes et on gagne en productivité. Super. Ce discours, il est là, mais il sonne un peu creux de... Quand même, on continue à faire venir, avoir des promos à 75% de gars. On demande aux meufs d'être là et de promouvoir l'école en mode « Regardez, il y a des meufs dans notre école !» Et oui, c'est utile de faire de la prévention dans les collèges et tout, parce que de la sensibilisation, c'est aussi comme ça. C'est par le biais de l'éducation et en montrant des exemples. Et c'est super important, les exemples. Mais le discours final sonne creux. On a un peu l'impression d'être juste là pour faire leur pub. Et je sais que moi, j'ai des potes qui ont refusé certaines opportunités parce qu'elles étaient en mode « Si j'accepte de rentrer dans tel cursus, telle formation un peu extrascolaire, mini-scolaire, mini, dans le contrat, il y a le fait de faire de la pub un peu. » Et d'être sur les réseaux, et d'être sur les réseaux en tant que meuf ingé. Mmh. Et le seul atout, c'est être une meuf ingé et de se montrer en tant que meuf ingé. Et ça les dérange. Parce que j'ai envie d'être ingénieure, j'ai pas envie d'être une femme, meuf ingé qui doit parader. Et du coup, se taper tous les salons parce qu'en fait, c'est mignon, mais il faut qu'on montre que notre entreprise accueille des femmes. Donc, tu vas aller faire tous les salons pour accueillir les femmes. C'est aussi une problématique, je trouve. C'est du pinkwashing.
Ouais, clairement.
D'école, quoi, et de formation. Voilà.
Et en même temps, s'ils le font pas, il y a aussi ce truc de, il y aura peut-être moins de filles qui vont se dire « Ah, donc il y en a, donc je peux y aller », tu vois, aussi, dans ce sens-là. Deux, il y a quand même quelque chose d'identification forte qui est visuelle avec la personne qui est en face de toi. Et dans les salons, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rencontres une fille ingénieure qui est dans une école et qui te dit « Bah, c'est dur, oui, on n'est pas beaucoup, oui, mais je suis là, bah t'as aussi ce truc de « Ah ok, donc peut-être que moi aussi je peux le faire. »
Mais je suis totalement d'accord, et c'est un véritable débat intérieur ce côté de la représentation et montrer qu'il y a des femmes en école d'ingé, c'est super important. Et enfin, genre, moi, ma mère est ingénieure, du coup, j'ai jamais eu besoin de rechercher ce modèle-là parce que je l'avais à la maison, même si au final, quand j'ai grandi, elle a changé de carrière et est devenue infirmière. Donc, moi, je l'ai connue en tant qu'infirmière, puis infirmière informaticienne, mais à l'origine, elle est ingénieure informaticienne. Et donc, j'avais pas besoin de ce modèle, je l'avais. Et mais j'entends qu'il faut, et c'est super important de le faire, de le montrer et de faire sa part et de dire, moi, je suis une ingénieure et je survis. Et en vrai, tout se passe bien. Certaines de mes collègues ont plus de remarques que moi, mais moi, comme je suis plutôt discrète, j'ai la chance de ne pas trop en avoir. Il y a aussi cette question de être une femme, ça se passe bien souvent quand tu es discrète. Tu peux rarement te permettre la même visibilité que les gars. Et c'est un vrai débat. Et en même temps, bah, y a des fois où j'ai juste pas envie d'être brandie au moindre vent, de devoir pavaner en tant que femme. Et aussi, ça me gonfle quand on fait une présentation et que je sais que le secteur est à 20%, enfin, il y a 20% de meufs dans le secteur, et pourtant, toutes les présentations que j'ai d'entreprise, bah, il n'y a que des meufs, parce que c'est comme ça qu'on veut le brander. Et bah, j'ai quand même l'impression qu'ils cachent la misère, et du coup, je suis d'accord, mais faites au moins venir de manière paritaire.
Ouais.
Parce que ramener la meuf qui est en plus assez ridicule, c'est souvent des personnes des ressources humaines qui viennent juste pour dire il y a des meufs et montrer qu'il y a des meufs dans leur entreprise. Et en fait, bah, soit vous avez quelque chose de pertinent, une personne qui est là, qui a envie de venir et qui a envie de promouvoir son rôle dans l'entreprise, qui en plus est une femme et c'est trop cool en termes de représentation. Soit parler juste nous de gens qui sont dans le métier.
Ouais, en fait, le problème, il est dans le message qui est passé. C'est important de montrer qu'il y a des meufs dans ce milieu, mais pourquoi ? Genre, pourquoi c'est important ? Enfin, là, comme tu dis, les écoles utilisent ça pour montrer qu'il y a le quota, mais le fait est que c'est pas censé être utilisé comme ça.
Oui, c'est les écoles et les entreprises.
Hein. Ouais, oui, non, mais c'est ça.
Tout
oui,
dans
voilà.
Le bateau.
Oui, bien sûr. C'est le message, il est plutôt adressé. En fait, la cible, c'est pas les étudiants ou les futurs employés. C'est clairement au-dessus. C'est genre les autres entreprises. C'est montrer, regardez, nous, on est paritaire. Nous, il y a des meufs. C'est bien. Non, le message, il est censé être motivant pour les meufs qui osent pas se diriger là-dedans. Alors, souvent, ça a le double effet. Mais voilà, c'est surtout l'intention des écoles et des entreprises qui est nocif.
Oui, là où, surtout, quand tu fais une présentation dans une école d'ingé, les meufs qui sont là, elles sont déjà conscientes du problème, elles ont déjà abattu un certain nombre de chemin, parcouru hein, une partie du chemin. Donc, refaire cette représentation juste pour faire une représentation de meuf, ça n'a plus trop de sens. Alors que, genre, dans des écoles primaires, en intervention auprès d'écoles primaires, de collèges, de lycées, là, je trouve ça vraiment très, très important. En école d'ingé, c'est important. Et si on me faisait des présentations qu'avec des mecs, je ferais la remarque.
Mm-hmm.
Mais
oui, c'est ça. Mais c'est juste être dans l'équité, en fait, c'est pas faire que des représentations de femmes ou que des représentations faites par des hommes, mais faire quelque chose qui, quand même, présente la réalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les deux et que surtout ce soit dit et à l'oral, en fait, et pas faire style genre ou faire nous on est vraiment alors que non. C'est juste voilà, c'est l'équité en fait, c'est exactement ça, être féministe, c'est juste dire ok, bah, y a tant de femmes, il y a tant d'hommes, sur ce sujet-là, c'est une femme qui va venir vous en parler, alors que sur ce sujet-là, ce sera un homme. C'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes dans ce secteur-ci, mais c'est juste que sur le moment, c'est un homme qui va venir vous en parler.
Oui, et c'est pas un souci. Mais du coup, merci Jeanne pour avoir résumé ce auquel je tourne en rond depuis 10 minutes.
Avec plaisir.
Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur le sujet aussi.
Non, moi, ouais, ça ira pour nous.
Alors là, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parle. Donc, moi, j'avais prévu deux autres sujets. Que ce soit les VSS dans les milieux étudiants ou la vie étudiante et la vie associative, de comment on a une répartition, comment vous vivez votre vie associative. Donc, femme, je ne sais pas si vous voulez faire un sujet, lequel, les deux.
Je pense qu'on va plutôt partir sur le deuxième.
J'ai l'impression qu'on est en jeu télévisé, genre...
Camille, nous choisissons la deuxième option.
Dommage.
Parce non, que, non. Si tu veux, on peut résumer rapidement la première. Parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose à dire par rapport au VSS. Tu peux préciser ce que c'est.
Alors, du coup, on va brièvement aborder le sujet. C'est juste pour présenter quelques chiffres. Et donc, les VSS, c'est les violences sexistes et sexuelles. D'après le baromètre... contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur de 2023, on a un neuvième des étudiants et étudiantes qui ont été victimes de VSS depuis leur arrivée en études sup. Un vingtième victime de harcèlement sexuel. 20% des étudiants et étudiantes se disent témoins, enfin, ou avoir été témoins, d'injures LGBTQIA-phobes. Et la moitié des étudiantes et étudiants ne se sentent pas en sécurité dans leur établissement vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles. La question n'est pas là d'avoir un débat sur votre vécu, parce que c'est de toute façon beaucoup trop personnel et pas le lieu, mais plus sur comment... vous vous sentez par rapport à les dispositions mises en place par votre université et surtout qu'est-ce que vous aimeriez voir comme dispositif.
Alors, moi je sais que la soirée d'ouverture, la soirée de clôture des JV, donc qui est la soirée en gros fin de la semaine d'intégration, c'est au tout début de l'année. On a souvent des petits goodies, dont une règle de c'est ok, c'est pas ok, je crois, ou c'est quoi exactement, je sais plus.
De si son compagnon, parce que c'était au masculin, si ton compagnon est toxique ou non, et s'il faut demander de l'aide par rapport à son comportement.
Voilà, donc c'était plutôt du côté de la sphère privée.
Ouais, c'est ça.
Si c'est ok, si c'est pas ok.
Est-ce que c'est la règle du violentomètre?
Ouais.
Le truc qui va du vert au rouge.
C'est ça, exactement. Voilà. Donc, il y a une distribution de ça. Tu as aussi souvent les capotes de verre pour éviter que tu te fasses droguer, tout simplement, à ton insu. Donc, il y a ces choses-là. Et puis, je crois qu'il y a aussi un stand de prévention là-dessus. Il y a des choses comme ça qui sont mises en place. Donc, c'est cool. Mais après, est-ce que c'est suffisant pour juste en plus la soirée de clôture de la semaine d'intégration? Je suis pas certaine. Et puis après, il y a aussi un truc que, en vrai, dans ce qui est le milieu festif, l'université peut pas tout gérer. C'est pas possible. Il y a trop de soirées dans la semaine, il y a trop d'associations, de BDE, de... C'est pas possible de faire de la prévention partout, mais je pense qu'il y a plus de choses qui peuvent être faites. Il y a un truc, alors ça va un peu rejoindre le sujet d'après, mais...
On en parle après.
Non, mais quand on est dans l'associatif, il y a une formation qui est obligatoire par association qui est sur les VSS. Mais du coup, ça concerne que les membres du bureau. Donc, peut-être pouvoir proposer cette formation-là à tous les étudiants. Alors, je ne sais pas si c'est fait en réalité. Je pense qu'il doit y avoir des formations proposées, mais dans ce cas-là, la communication n'est pas top. Hein. En tant que futur chargé de communication, voilà, je pense qu'il y a ces formations-là, elles ne sont pas rendues assez accessibles à tous. Enfin, limite, elles devraient être obligatoires. Parce que même si ce n'est pas dans un contexte d'assaut étudiante, bah, ça sera en boîte, ça sera chez ton pote, ça peut arriver partout. Donc, autant que tout le monde soit sensibilisé, que ça soit dans le cadre, bah, tu prends une demi-journée obligatoire pour tous les étudiants. Alors, ceux qui l'auront déjà fait, bah, ça les fera chier, mais tant pis, en fait, c'est juste important d'en parler.
Je suis d'accord. Et moi, du coup, j'ai fait deux rentrées dans des écoles, enfin dans des grandes écoles. Et à chaque fois, j'ai eu une formation sur les VSS dispensée à l'intégralité de la promotion. Dans un cas, ça a été plutôt bien fait. Dans l'autre, pas du tout.
Oui, ça aussi.
Donc, j'ai eu une demi-journée qui a été consacrée avec vraiment une intervention, une conférence qui était intéressante. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas trouvée intéressante, mais moi, j'ai trouvé intéressante sur le... Bah voilà, être femme, le parcours d'une femme et les difficultés qu'elle avait rencontrées. Et après, sur les VSS, on avait un jeu, voilà, c'était un peu ludique. Bon, pareil, je pense qu'il y a des gens qui ont plus ou moins été sensibles à ça, mais je crois que tout le monde a plutôt bien apprécié la demi-journée et s'est senti un peu impliqué. C'était chouette. La deuxième, c'était une conférence face à un amphi de 300 personnes où, bah, en fait, ça n'allait pas. Ça a été introduit de manière à faites pas des VSS parce que ça ruine l'image de l'école. Bah non, en fait, ça ruine surtout la vie des personnes qui subissent ces actions. Donc non, en fait. Après, la conférence en soi a été faite par une association. Elle était intéressante, pas adaptée, je pense, aux personnes en face, mais intéressante. Toujours est-il qu'après, moi, c'est sur le suivi. Je suis d'accord, c'est très compliqué de suivre la vie. Et sinon, c'est fliquer tout le monde. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de... Sur ces questions de tant que l'image n'est pas remise en cause, il n'y a pas de souci. En tant qu'étudiante de grande école, dans la rue, on nous reconnaît. On sait de quelle école on vient. On est facilement identifiable. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont donc, très vigilants dès qu'il y a un signalement sur une personne dans l'école qui a un comportement en soirée ou autre signalé par quelqu'un. Si ça peut être vu par des personnes extérieures à l'école, là, c'est tout de suite pris au sérieux. Quand c'est interne, bah, voilà, les sentences sont déjà beaucoup plus légères et les signalements, ils sont là, c'est tout.
Non, mais complètement, pour te rejoindre, j'avais un ami qui était en école d'ingénieur qui est sorti l'année dernière et c'est ce qu'il me racontait aussi. Il m'a dit, bah, tu vois, ces deux-là, gars, là, bah, on sait ce qu'ils ont fait à les filles de la promo. Les filles n'osent pas forcément porter plainte publiquement. Elles sont juste allées voir des professeurs ou des gens un peu plus haut gradés et rien n'a été fait, à part justement peut-être aller « Oh, attention, c'est pas bien ». Et parce que justement, ils étaient en mode « Bah, en vrai, tant que ça sort pas de l'école, vas-y, c'est bon.
Ouais.
Faut juste pas que ça... » Parce que t'imagines, attends, après ça sort, t'as deux personnes de cette école d'ingénieurs qui ont fait quelque chose. Oh, mais déjà qu'il n'y a pas de filles dans le secteur, mais il y en aura encore moins. Puis les gens vont pas venir dans notre école. Faut quand même qu'on récolte des sous, nanani nanana. J'ai été outrée par ça. Et aussi bah, parce que le fait, du coup, bah, en fait, je me suis rendu compte, je lui ai dit, mais personne n'a réagi. Et il m'a dit, bah non, on sait, on fait attention maintenant, on le divulgue aux autres. Mais c'est tout. Je suis en mode, d'accord. Personne n'a... Aucun des étudiants ne s'est dit « Ok, bah, on monte un truc, on fait quelque chose, on fait un truc, quoi. » et personne n'a réagi.
Franchement, même témoignage de quand je dis que le gars nous a introduit la conférence sur les VSS, sur l'image que ça retourne de l'école, il nous a dit non, mais en plus, les journalistes n'attendent que ça, donc si ça sort, ils seront là le lendemain à 8h à vous interroger. C'est pas ce que tu dis hein, à ce moment-là.
Oui.
Et surtout, pendant toute la conférence, c'est venez, parlez-en aux gens qui sont autour de vous, à l'administration. Et je me souviens d'une fille qui a eu une intervention honnêtement brillante de demander si le corps enseignant était formé à recueillir la parole des victimes ou même juste au VSS. Malheureusement, non. Ils n'ont pas eu tous le temps d'être formés. Que vous comprenez, c'est des contraintes d'agenda et du coup, c'est compliqué. Donc, on avait face à nous juste des gens qui faisaient la conférence pour dire qu'ils... Enfin, ils avaient mis en place la conférence juste pour dire qu'ils avaient mis en place la conférence. Et une conférence, on nous disait, allez voir des gens qui ne sont pas du tout formés à recueillir votre parole et qui vous diront, écoute, on va régler ça en interne, il n'y a pas de souci, on te comprend, mais bon, quand même, on ne va pas foutre grand-chose. Et ça, en fait, tu te sens pas du tout en confiance. Heureusement, on a une asso féministe qui n'est pas UW, puisque c'est dans une trocole, qui prend en charge ça, qui accueille la parole des victimes. Mais
c'est contre-productif,
pas...
en fait.
Mais oui, c'est contre-productif. C'est pas aux élèves d'avoir la charge mentale de tout ça. Ils doivent, je trouve ça bien d'avoir des élèves qui est, de pas forcément devoir aller parler au directeur à chaque, enfin, c'est beaucoup plus accessible. C'est bien d'avoir un relais, d'avoir un vrai relais. Et nous, ils sont présents en soirée, donc, très reconnaissables. Donc, c'est ça, c'est vraiment cool. Et en même temps, l'admin ne fait rien. Et l'admin, avant qu'il y ait des faits attends qu'il y ait des faits gravissimes ou répétés pour se bouger un peu. Et c'est quoi? C'est une blacklist de la vie d'assaut.
Mais en plus, comme l'a dit Jeanne, c'est clairement contre-productif d'avoir des profs qui sont pas formés, parce que même pour eux, c'est des adultes responsables, mais tu sais pas non plus ce qu'ils ont vécu. T'as des personnes qui sont pas du tout prêtes à entendre ce genre de témoignage. Du coup, c'est important d'avoir des référents prêts et qui ont les épaules pour entendre ce genre de témoignage. Moi, je sais que j'ai pas été formée dans le cadre de mon parcours universitaire, mais par contre, j'ai fait un service civique où il y avait plusieurs formations obligatoires, et j'ai notamment fait plusieurs formations sur les VSS, dont certaines qui étaient vraiment très bien faites, parce que c'était, comme tu l'as dit, c'était accessible à tous. S'il y avait des personnes qui ne se sentaient pas d'être confrontées à ce sujet, pas de souci, elles pouvaient sortir au moment où elles pouvaient, où elles voulaient. Et pour le coup, même si je pensais, comme je l'ai dit, j'en ai fait plusieurs. Donc, par exemple, il y en a une, je pensais vraiment être totalement au clair sur le sujet, être je sais ce qui va se passer là et tout. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir pour parler de ça, je suis OK pour l'entendre, je saurais comment réagir. Et en fait, j'ai fait une formation où je suis mais en fait, je crois que je suis pas du tout, j'aurais peut-être pas les épaules pour entendre ce genre de témoignage. Je suis OK pour en parler parce que là, il n'y a pas de cas concret, mais en fait, si ça arrive vraiment, je ne suis pas sûre de pouvoir gérer le truc. Et donc, j'ai été même référente sécurité à un événement préalablement à cette formation-là. Et heureusement qu'il ne s'est rien passé, parce que, en fait, si ça se trouve, j'aurais été complètement paniquée parce que juste... dans l'incapacité de gérer la situation, une situation comme celle-là.
Oui, que accueillir la parole des victimes et des personnes qui subissent de tels actes, c'est pas inné, ça s'apprend pas, et c'est pas... Déjà, dire « je t'écoute, je crois en toi, c'est des premiers pas, mais ça fait pas tout. Et moi,
il y
je
a
sais
un accompagnement après
c'est
ça.
C'est un vrai accompagnement et moi, c'est quelque chose qui me manque. Enfin, je me sens pas du tout prête. Et c'est pas du tout une responsabilité que je me sens de pouvoir prendre actuellement de staffer en soirée et de... Parce que juste, je suis en mode poupette, juste bien câlin
ouais,
et je sais pas trop quoi faire d'autre.
Ouais.
Enfin, parce que ça demande un vrai savoir-faire, un vrai... un calme et savoir dire les mots juste au bon moment.
Ouais, c'est, ça demande vraiment... un sang-froid qui est incommensurable. Enfin, vraiment, quand il nous avait expliqué toute la procédure, j'étais en mode, ah ouais, ok, alors, jusque-là, dire, ça va, tu es dans un lieu sûr maintenant, genre, on va s'occuper de toi. Mais après, tu as tout un suivi qui n'est pas dans l'instant T, qui vraiment sur plusieurs semaines, plusieurs mois, qui peut être vraiment pas évident. Et ça, bah du coup, avoir justement des professeurs qui sont ou des professeurs ou enfin juste des personnes qui travaillent dans les universités ou dans les écoles qui sont vraiment formées à ça ou limite qui sont vraiment, enfin c'est dans leur fiche de poste, c'est hyper important parce que avec la vie d'étudiant, t'es pas forcément ou même tes propres sensibilités, t'es pas forcément en capacité de supporter tout ça.
Je n'aurais pas fait meilleur résumé. Donc sur ces paroles joyeuses,
bien, on
mais
dit...
au moins on apporte des solutions.
Ouais.
Il faut voir le point positif, juste mettez des moyens dessus et faites pas uniquement une... enfin, les plateformes de signalement anonyme, c'est très important. Et en même temps, bah, faut savoir mettre des moyens humains parce que c'est super important d'avoir du relationnel où les plateformes de signalement sont très importantes pour pouvoir mettre les mots dans un premier temps, mais être accompagné par un humain et se sentir pas seul et accompagné, c'est, je pense, encore plus important. Donc, juste des moyens.
Ça me tue vraiment, on a dit qu'on allait en parler brièvement, ça doit faire 20 minutes qu'on parle de ça. Mais
ouais.
C'est important, c'est important.
Et là, je crois qu'on va tenter d'accélérer un peu sur le prochain sujet, mais on avait déjà dit qu'on avait accéléré. Donc, on va maintenant passer au dernier point, parce qu'en vrai, en tant qu'étudiante, et surtout toutes les trois, il y a beaucoup d'associatifs.
Oui.
Ah oui. Trop d'associatifs, peut-être ?
Oui. Oui.
Plus d'associatifs que de parties de la licence ou de la formation de base, je pense. Après, je pense que c'est un peu le but de l'université. Enfin, l'université, pour moi, c'est vraiment, c'est ce qu'on m'avait dit aussi, c'est ok, t'as tes cours, t'as ta licence, en tout cas quand t'es en licence, mais le but, c'est que tu fasses de l'associatif à côté et que tu remplisses ton agenda par ça.
Oui, c'est le but de l'école de commerce aussi. Là, au vu de mon emploi du temps qui me... en ingé, j'ai peut-être plus un peu plus douillé, mais c'est temporaire. Les études sup riment avec la vie associative. Et on en est bien l'exemple. on est aussi l'exemple quand même de personnes qui sommes dans des assos quand même assez, voire très ouvertes d'esprit et inclusives. Donc là encore, on repart sur notre prisme de nos assos, les gens qui nous entourent et forcément... voilà, on se retrouve pas dans l'assaut nationaliste de manière évidente.
Oui, non, pour ma part, moi je fais partie de trois associations culturelles et artistiques, avec Delia, on fait toutes les deux parties de l'association Et tu chantes, moi je suis Pôle Event dedans, je fais aussi partie de Music Hall, où je suis responsable danse, donc du côté artiste, pour monter des comédies musicales. Et je suis aussi chargée de communication dans une troisième association qui est basée plus sur Lyon, qui s'appelle Évident 69, où c'est aussi de la danse et de l'organisation de stages.
Délia.
Bah moi je suis aussi donc du coup étudiante en tant que coprésidente et également à Music Hall en tant que choriste. Donc ouais pareil, c'est deux assos bah, de musique. Donc,
Puis et tu chantes, t'es aussi chargée de communication.
Ouais, je suis aussi à la com depuis 2 ans à Etuchante.
Oh mon reniflement. et moi, du coup, en toute surprise, je suis également à Music Hall.
Waouh.
Où j'étais du coup danseuse et là, je suis à la mise en scène.
Félicitations pour votre promotion, madame.
Pardon, madame la Respo. et du coup, je suis également à EIW, donc EDEC Inspiring Women, l'asso féministe du campus, où je suis à la fois la vice-présidente et la respo du pôle média, donc qui regroupe la com, la créa et le podcast.
Tu fais tout, quoi.
Ouais, un peu. Non, pas du tout.
Vous entendez ça?
Non, on a quand même d'autres trucs. On fait pas mal de choses et on fait pas mal de choses qui sont donc dans des assos soit engagées, soit culturelles, de manière générale. Donc forcément, ça va influer sur nos discours. Je sais pas si vous avez eu des expériences associatives avant. C'est vrai que je pense que je suis j'étais dans des clubs de gymnastique rythmique, donc ça a été mon asso à un moment. J'ai été dans des assos de musique, genre école de musique. Après, j'étais au BDE de mon lycée aussi.
Ouais, pour ma part, moi, ça fait 10 ans que je suis avec Évidence 69. Donc, pas tout de suite en tant que chargée de pôle, parce que parce que j'étais petite. J'avais 10 ans. Mais j'ai toujours fait partie de l'association aussi, donc j'ai vu l'évolution que ça a pris.
Ouais, moi pareil, j'ai été présidente de la MDL, Maison des lycéens, quand j'étais en terminale. Mais à part ça, j'ai vraiment commencé à être dans l'associatif bah, avec Etuchante.
Et toujours sur des potes de presse, hein, on remarque.
Ouais, mais pourquoi? Ça, on se demande, mais bon.
Mais du coup, aujourd'hui, le monde associatif français n'est pas forcément celui qu'on connaît, nous. Pour vous donner des idées, alors, mes chiffres sortent de France Bénévolat. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, pour être honnête. Mais mes états, c'est complet, donc je les ai pris. Et me donner que 51% des membres d'associations sont des femmes et 70% des salariés. Étant donné que les salariés, c'est souvent relatif à l'orga, la com, voilà.
Juste, j'ai oublié de dire, mais en fait, j'ai été volontaire en service civique aussi, du coup, bah, dans une association, donc
un peu important.
Voilà. Qui, en plus, était AnimaFac, du coup, donc une association qui est un réseau d'associations étudiantes. Donc bon, voilà, c'est quand même un petit chapitre.
Et du coup, pour revenir à mes chiffres, même si on a du coup moite-moite en termes de participation et de membres, c'est seulement 33% des présidents qui sont des présidentes d'associations.
Hey.
Donc, on a Delia, fière représentante, mais la parité qu'on a au sein des membres ne se reflète pas plein encore dans les assos, étant donné qu'elle ne se reflète pas non plus dans ce sur quoi les personnes s'engagent, parce que par exemple on a 18% des femmes qui sont dans des associations sportives pour 29% des hommes et 16% des femmes sont dans des associations liées à la jeunesse et à l'éducation, 38% des hommes. Donc là on voit déjà des certaines thématiques un peu genrées et c'est aussi important de voir les choses comme ça, on est nous dans des assos culturels qui sont quand même majoritairement composés de femmes et dans leurs membres. Et on a la question de dans leur bureau, dans leur respo, on est beaucoup plus égalitaire déjà. Donc, ça pose une question de soit l'engagement, de est-ce que les femmes veulent, enfin, sont juste en mode c'est cool, j'ai envie de participer à l'assaut, mais vas-y, les responsabilités, j'ai d'autres choses à faire. Ou est-ce que on a d'autres biais, étant donné que ça peut pas être, enfin, tout n'est pas forcément théorisable, et surtout à nos échelles, enfin, c'est des assauts particulières dans un contexte particulier, tout ne peut pas être expliqué, tout ne doit pas être expliqué par la sociologie. Bourdieu a raison sur toute la ligne.
Non, bah, en vrai, il y a quand même le truc de bah, clairement, la société fait que on donne pas confiance aux femmes. Pas dans, parce que, en fait, voilà, c'est général, les femmes ont rarement des postes à responsabilité. Même si clairement il y a une évolution, et du coup, bah, vive le féminisme. Mais voilà, c'est encore un truc qui est à déconstruire. Et du coup, bah, c'est en train de changer. Enfin, j'en suis la preuve vivante. C'est-à-dire que...
Ouais, en toute humilité.
En toute humilité. Non, mais enfin voilà. Non, vrai exemple, à Etuchante, avant moi, il n'y a pas eu de présidente. C'était... Il y a eu deux présidents. Alors, je suis en coprésidence avec un président. Mais ça...
Ouais, et l'asso a du coup 4 ans.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu 2 ans le même président, 1 an un autre président, et là, du coup, on est un président et une présidente.
Et au bureau, vous êtes combien ?
En parlant du bureau restreint ou juste tous les gens dans le conseil d'administration ?
Bah, tu peux parler déjà du bureau restreint et l'élargir aux gens du CA. Ouais.
Bah, en ce qui concerne le bureau restreint, donc présidence, trésorerie et secrétariat, alors attention, faites vos jeux. Est-ce une femme ou un homme au secrétariat ? Brrr, une femme. Et wow. Trésorerie, est-ce un homme ou une femme ? Brrr, un homme. Qui s'y attendait ? Je pense absolument tout le monde. Et ouais, ça, malheureusement, bah, on n'a pas pu... Enfin, très cliché, mais voilà, c'est le fait est que on a une secrétaire, un trésorier, et que en réalité, je crois que c'est comme ça déjà depuis un moment.
Depuis, oui, depuis sûrement la création de l'association déjà. Ouais. Même s'il y a eu plusieurs secrétaires et plusieurs trésoriers.
Ouais, ça a toujours été comme ça. Ouais,
le trésorier, je suis sûre que ça a toujours été que des hommes.
Ouais.
Le secrétaire, j'ai un petit doute.
Premières années, je sais pas.
Mais en tout cas, ça a été une fille.
Depuis deux ans, c'est une femme. Et par contre, en ce qui concerne le conseil d'administration, qui inclut du coup la com et l'événementiel et le pôle artistique, on a eu, bah, du coup, chargé pôle artistique, on a eu 1 an et demi un mec. Et là, après, il y a eu... Ça a été mixte, il y a eu hommes et femmes. Et là, cette année, c'est une femme. Et pour l'event, par contre, c'est que des meufs. Ça a tout le temps été que des meufs.
Et on voit que dans tout ce qui est plus terrain, c'est-à-dire, bah, par exemple, lors de nos événements, quand c'est animer les événements, quand c'est faire la préparation, même déplacer des canapés, bah, ça, c'est souvent les femmes qui le font, qui sont plus sur le terrain à accueillir les gens et vraiment à être dans le feu de l'action. Mmh.
Clairement, le représentatif administratif, et là, je parle bah, du coup notamment des commissions de financement, c'est en général un mec qui y va et qui est le président. Mais par contre, ce qui est représentation publique auprès de nos membres et auprès d'un public plus large, c'est souvent quand même bah, nous, les femmes de l'asso, quoi.
C'est super intéressant. Bon, moi, je vais pas pouvoir faire une grande dissertation sur EIW pour la simple et bonne raison que déjà, on est super contentes et contents d'avoir un gars dans notre bureau qui est trésorier, en effet. Mais ça s'est fait plus pour des questions de... C'était le job qu'il pouvait faire en n'étant pas sur place. Donc voilà, ça s'est pas fait en mode « we need a boy » en tant que trésor. Et jusque-là, en fait, c'est le premier gars qui est entré dans le bureau donc de IW, qui a recruté cette année sa 8e génération. Donc ça fait 8 ans que l'asso existe. C'est le premier gars qui s'est engagé au sein du bureau et on était déjà super contente. Et on est toujours super contente et content. Après, je suis d'accord sur vous, sur la présidence, en vrai, sur les exemples que j'ai. Forcément, en gymnastique rythmique, moi, la présidente de club, ça a toujours été une présidente, mais parce que le sport est extrêmement genré. Enfin, c'est quand même le seul sport qui reste non mixte au JO. Et donc, voilà, la question s'est posée. Mais par exemple, au BDE, le BDE de mon lycée commençait à tomber un peu à l'eau et la principale est allée voir deux gars qui sont deux de mes potes pour aller leur demander s'ils voulaient reprendre le BDE. C'est parce qu'ils s'étaient lui avaient déjà demandé des trucs et ils étaient assez engagés, mais c'était pas les seuls assez engagés aussi et assez dirigés vers là. Est-ce que c'est un biais? J'en sais rien. Deux, c'était très sympa de les avoir en tant que presse. Après, en même temps, j'ai fait pas mal d'organisations au sein de ce BDE, même si j'étais pas prêt, j'étais pas très haut, enfin, j'étais pas dans. On avait moins cette distinction petit bureau, bureau élargi. Mais voilà, j'ai fait quand même une partie du taf d'orga, qui en vrai est peut-être plus celui du presse ou du SECGEN en règle générale. Mais nous, on n'avait pas de secrétaire à l'époque.
J'ai juste, par exemple, un petit contre-exemple, c'est que dans notre fédération d'associations, il y a le BDE STAPS de l'Université de Lille. C'est une présidente depuis plusieurs années maintenant. Là, la présidente actuelle, elle l'était déjà l'année dernière, et avant elle, c'était aussi une présidente. Donc, je trouve ça assez sympa que ce soit. Des présidentes, surtout qu'elles sont hyper engagées dans leur asso. Enfin, l'asso globalement, STAPS, est hyper engagée pour les étudiants. Pas que en STAPS, mais globalement pour les étudiants. Donc je trouve ça très cool que ce soit eux. Et justement, je suis en train de regarder leur bureau. C'est quand même assez paritaire. Il y a alors plus de mecs quand même, parce que de toute façon, on STAPS, il y a une majorité de mecs. Mais on atteint quasiment la parité, il me semble. Donc c'est cool.
Ouais. Après, en fait, la question, ce qui serait le plus intéressant, ce serait de voir sur les personnes qui se sont présentées et quelles étaient leurs motivations. Et en même temps, moi, je sais que j'ai toujours été dans des assos où bon, les élections, elles étaient jouées d'avance parce qu'il y avait plus ou moins une seule personne par poste.
Oui.
Donc, et parce que faire juste cette analyse de « bon, il y a des gars là, il n'y a pas des gars là », c'est une observation de terrain.
Oui, complètement, mais, ouais. C'est pas non plus un… On n'est pas en train de blâmer qui que ce soit parce que c'est un président et pas une présidente. Là, on parle juste en tant que… jeune fille étudiante dans un milieu associatif en tant que voilà, il n'y a pas de on blâme pas les gens pour ça ou quoi que ce soit, on est hyper content qu'il y a un président, qu'il y a une coprésidente, qu'il y a un trésorier, parce que ça aurait pu être moi et je voulais pas m'en occuper, tu vois, donc il y a ça aussi, il y a quels sont les intérêts des personnes malgré quel que soit leur sexe ou ou comment ils s'identifient, c'est juste ça aussi leur centre d'intérêt. Là par exemple, comme tu parlais des recrutements aussi, cette année, on va renouveler notre conseil administratif. On cherche des personnes pour la communication et l'événementiel, principalement, ainsi que pour le bureau restreint, mais plus pour ça. Et pour l'instant, on a 3 personnes qui sont intéressées, et ce sont 3 filles qui sont intéressées par le pôle événementiel.
Sachant que cette année, on a quand même pas mal de mecs dans la chorale. Et pour autant, il n'y en a aucun qui s'est dit « oh ». Ouais, on est sympa, ils sont sympas, on va les rejoindre. Alors que je suis sûre qu'ils seraient super. Mais c'est juste
Oui, ils ressentent moins le besoin de s'engager et de dire bon bah je dois faire ma part dans la
Ouais, c'est ça.
l'asso, le fait que l'asso ait besoin de tourner.
Donc, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment, le vent a clairement tourné, du côté des étudiantes.
Mais du coup, là où c'est peut-être plus intéressant, c'est de voir est-ce que vous trouvez que ça influe sur la gestion de l'asso? Est-ce que parité ou non, enfin, si, dans l'idée, si on n'avait que des gars ou des meufs intéressés, mais super à cheval sur le fait d'écouter de la parole des uns et des autres, des problèmes des uns et des autres, femmes ou hommes ou non-binaires, c'est plutôt. Ma phrase était beaucoup trop longue. De comment ça influe d'avoir ce bureau? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a des décisions, des choses qui sont faites? Et bah, en vrai, la manière d'organiser les choses est influée par la composition de ce bureau ou juste, en vrai, les gars, vous êtes en train de psychoter et de vouloir trop théoriser les choses ou autre.
Clairement, depuis qu'il y a plus de meufs que de mecs au bureau, tout fout le camp, quoi. Enfin, c'est un bordel monstre. Enfin, les femmes sont incapables.
Bon, pour revenir un peu au sérieux, par rapport à Etuchante, ce qui se passe surtout, c'est que, certes, on a un trésorier homme et un des coprésidents qui est un homme aussi, mais en fait, avec Delia, on est les plus anciennes dans le monde associatif et surtout à Etuchante en tant que déjà personne du bureau et du CA. Et donc, c'est vrai que, en fait, finalement, il y a plus de décisions qui se reposent sur notre expérience, surtout. Pas juste en tant que femme ou homme, mais juste en tant que personne qui a de l'expérience dans cette association-là, et juste de savoir, OK, bah, vous avez fait quoi l'année dernière par rapport à ça, et comment on gère ce problème-ci, plutôt que juste, bah, là, on voit une différence de tempérament.
Oui, ce qui est quand même logique en même temps, ce qu'on espère comme réaction. Et c'est pas normal. Et en même temps, j'aurais été attristée d'une autre réponse. Ce côté de. Heureusement, c'est aujourd'hui quand même l'expérience ou d'autres biais de qui n'est pas forcément l'expérience dans le monde associatif directement ou dans cette asso. C'est juste, bah, il y a des gens par leur parcours, que ce soit dans cette asso ou non. Ont des trucs à apporter et prendre ça en considération avant, c'est ma question, c'est peut-être plus sur une organisation, sur l'écoute, sur ou peut-être juste il y a rien à remarquer à Etuchante, c'est tout
Ouais.
à fait possible.
Justement, j'allais dire aussi, parce que du coup, on est quand même deux filles, mais plus anciennes que dans l'association. Et il y a cette écoute-là, et aussi, je pense que c'est par rapport au comportement. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que si on ne m'écoute pas, je vais mettre mon poing sur la table et je vais dire, bon, écoutez, enfin, non. Et quand je dis non, c'est que ça ne va pas, tu vois. Et donc, il y a aussi peut-être ce truc de comportement de, même si ils essayaient, je ne dis pas que c'est ce qu'ils essayent de faire, mais que s'il y avait cette non-écoute, on serait les premières à réagir et on sait très bien que enfin il y a cette écoute-là et qu'elle est là parce qu'on est des personnes, surtout on est une association culturelle de musique, donc on n'est pas encore une association qui est politisée ou avec des grandes décisions importantes. Enfin, je veux dire, on organise trois événements dans l'année, on gère une petite chorale d'une trentaine de personnes, c'est pas non plus énorme, donc il y a cette écoute-là aussi parce que bah on leur a dit que l'année dernière ça marchait bien. Et donc, il fallait continuer dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir.
Et enfin, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je pense qu'on va mettre fin là parce qu'on est les trois fatigués. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Nous vous retrouvons le mois prochain, le 8 décembre, si on arrive à être dans les temps. Merci pour votre écoute. À la prochaine.
Bye.